Bonjour à tous, à chacun, à chacune. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin et de partager la parole. Et pour ceux qui me connaissent un peu, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher en alsacien ce matin. On va prêcher en français, qui, comme tout le monde le sait, sera la langue qu'on parlera au ciel. N'est-ce pas, d'après Apocalypse 23. Apocalypse 23, vous verrez après 22, il y a, vous rajoutez quelques pages. Non. Vraiment, merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé ce matin. C'est vraiment chouette d'avoir reçu tout ça, d'avoir vu ces mots. Et on voit que Dieu est un grand Dieu, un Dieu qui traverse les peuples, traverse les nations pour démontrer sa puissance, sa gloire et son salut aussi. Selon un sondage de l'IFOP datant d'octobre 2019, à la question « Selon vous, que se passe-t-il après la mort ?» 49% des Français pensent que l'être humain disparaît totalement. Moitié de la population pense qu'il n'y a plus rien après la mort. 14% que l'âme humaine, ce qui est à l'intérieur, devient immortelle, simplement. 10% que l'âme humaine est en attente d'une réincarnation dans un autre corps. 7% que l'âme humaine est en attente de la résurrection du corps, ce qui c'est ce que nous croyons en tant que chrétiens, et 20% ne se prononcent pas, ne savent pas. Et ce matin, nous terminons une série de prédications sur le prophète Joël. Et je ne pouvais pas revenir sur ce qui avait été dit lors des précédentes prédications. Et pour ceux et celles qui nous rejoignent ce matin, je vous encourage, dans la mesure de vos possibilités, d'écouter ces prédications sur le site internet de l'Église, où vous aurez les 4 précédentes prédications. Et ce matin, donc, nous allons terminer la dernière section du prophète Joël, 4 versets. Et ce texte nous dévoile justement certains éléments, ce que la Bible affirme à propos de la fin des temps, à propos de ce qui se passe après la mort. Ce texte nous explique quel sera l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour toute l'humanité. Vous voulez savoir quel est le plan de Dieu pour toute l'humanité, l'accomplissement ultime de ce plan? Je vous invite à lire avec moi Joël 4, versets 18 à 21, dans les Bibles qui sont sur les rangs, c'est la page 589, et puis le texte va être aussi affiché sur le PowerPoint. Joël 4, versets 18 à 21. À ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée. Édom deviendra un désert. À cause de leur violence contre les Judéens, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem le sera de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé, et l'Éternel habitera dans Sion. Cette dernière section, avec ce langage qui n'est pas forcément facile à la première lecture, c'est un langage prophétique, il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de choses derrière, qu'on va voir. C'est la dernière section, donc, Joël la débute par ces mots, en ce moment-là, ou dans d'autres versions, en ce jour-là. Et en fait, c'est les mêmes mots qui ont débuté les deux sections précédentes que nous avons étudiées il y a 2 semaines avec Jean-Marc, en Joël 3, verset 1, et la semaine dernière avec Scott, en Joël 4, verset 1. C'est les mêmes mots, c'est une troisième section, à ce moment-là, en ce jour-là. Et cette expression fait vraiment référence au jour de l'Éternel final, le jour où Dieu décidera de mettre un fin, un terme à ce monde, à l'histoire de l'humanité dans ce monde en tout cas. Dans ces 4 versets, Joël poursuit sa description des conséquences du jour de l'Éternel. Et nous, on a vu durant toute cette série, ce jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement et un jour de grâce aussi pour d'autres. Et dans ce dernier passage, donc, le prophète Joël évoque 3 conséquences majeures du jour de l'Éternel final, du moment où Dieu mettra un point final à l'histoire de l'humanité. Première conséquence, une bénédiction de Dieu sans commune mesure pour son peuple, au verset 18. La deuxième conséquence, c'est un jugement terrible pour tous ceux qui ont rejeté Dieu. Et enfin, une présence bienfaisante pour ceux qui appartiennent à Dieu, la présence de Dieu même au milieu de son peuple. L'état éternel voulu par Dieu, et vers lequel l'histoire de l'humanité nous amène, sera marqué par une séparation nette et franche entre d'un côté ceux qui seront bénis dans la présence même de Dieu, et de l'autre côté ceux qui seront jugés de manière juste par Dieu. Il y aura abondance de bonheur, de plénitude dans la présence de Dieu pour les uns, et un jugement juste et impartial pour les autres. Verset 18. À ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Alors que le peuple vit un moment terrible, on l'a vu dans les précédentes prédications, où il n'y a plus rien à cause d'une invasion de sauterelles qui a tout détruit. Plus de récolte, plus rien. Le prophète Joël tranche ici et prophétise un temps d'abondance future sans aucune commune mesure avec ce que le peuple vit à ce moment-là. On est en pleine contradiction. Le peuple manque de tout à ce moment-là. Et Joël prophétise un temps où il y aura abondance de tout pour son peuple. Pour marquer cette abondance, Joël évoque trois liquides que je vous ai surlignés en rouge ici, qui seront présents en profusion. D'abord le vin qui ruisselle des montagnes. Alors que dans le premier chapitre de Joël, il n'y a plus de vin ni pour se réjouir, ni même pour les libations, pour les sacrifices à Dieu. Ici, il y a abondance de vin. Le lait qui coule des collines, cela rappelle la description que Dieu faisait du peuple, du pays promis au peuple. Un pays où coule le lait et le miel, en Exode 3, verset 8 par exemple. Cela aussi est en contradiction avec ce que le chapitre 1 disait, où même le bétail souffrait. Et donc on peut se dire qu'il y avait peu de lait, peu de récolte de lait, puisque le bétail n'avait pas suffisamment à boire. L'eau qui jaillit dans les torrents, et là encore, c'est en contradiction pleine avec le chapitre 1, alors que le pays est marqué par l'absence d'eau, à cause d'une sécheresse, à cause de cette invasion de sauterelles. Ici, il y a une promesse d'eau à profusion. Joël promet un jour où il ne sera plus jamais question d'une quelconque pénurie, mais qui au contraire sera marquée par un temps d'abondance totale. Cette abondance compensera largement les calamités passées. Et cette promesse d'abondance future, sans commune mesure avec ce que le peuple vit à ce moment-là, lorsque Joël prophétise, nous rappelle ce que Paul dit lui-même en Romains 8, verset 18. Il dit ces mots: « J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir. » Aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir. Nous passons tous par notre lot de souffrances, de déceptions, de difficultés dans ce monde-ci. Dieu promet à tous ceux et toutes celles qui lui appartiennent, qui ont décidé de l'aimer, un avenir rempli d'une abondance au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est ça la promesse de Dieu pour nous. Les promesses d'abondance de Dieu sont sans comparaison, mais cela va encore bien plus loin. Au-delà de la promesse d'une abondance matérielle, la suite de ce verset contient une promesse encore plus merveilleuse. Il est dit qu'une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Le temple qui manquait de libation, chapitre 1, devient maintenant lui-même source de la fertilité du pays. Et cette source déverse dans la vallée de Sittim, ce qui signifie la vallée des acacias. Sittim, c'est acacia. Et c'est un lieu particulièrement sec où ne pouvaient que pousser des acacias, parce que ces arbustes, je ne suis pas botaniste du tout, je l'ai appris en étudiant un peu les choses, ces arbustes, les acacias, sont des arbustes qui poussent facilement, même dans des lieux très arides. Donc c'est comme s'il y a une fertilité qui se fait dans un désert. C'est ce que ce texte nous dit. Alors là, vous demandez tous, sans doute, en quoi cela est-il tellement merveilleux finalement ? De l'eau qui sort du temple pour arroser une vallée. Et alors ? La portée, la signification de ce texte-là, de ce verset-là, est bien plus profonde si on en comprend bien la symbolique derrière. Et pour bien saisir cette symbolique, il faut consulter quelques versets parallèles à celui-ci. Par exemple, dans Ézéchiel 36, versets 25-27, il est écrit, c'est Dieu qui parle bien sûr, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Zacharie 13, verset 1. « En ce jour-là, le même jour, jaillira une source pour purifier de leurs péchés et de leurs impuretés la famille de David et les habitants de Jérusalem. » Et enfin, Jésus-Christ qui dit lui-même, en Jean 7, verset 37 à 39, « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Ces trois textes, parmi d'autres, nous montrent que la source qui sort de ce temple est une représentation symbolique du Saint-Esprit et de son action purificatrice en particulier. Le Saint-Esprit qui nous rend purs, qui rend cette vallée pure. Cette source qui sort du temple a un autre rôle que celui simplement de rendre fertile le sol. Dans le temple, l'eau servait aux ablutions, aux rites de purification à cette époque-là. Et cette source a ce même rôle en purifiant la vallée de Sittim, en purifiant cette vallée dans laquelle elle coule. Et encore une fois, ce n'est pas dans n'importe quelle vallée, c'est dans la vallée de Sittim. Et là encore, il y a une symbolique forte à travers ce nom de Sittim. Comme je l'ai dit avant, la vallée du Sittim, c'est la vallée où poussent les acacias. Or, tout le mobilier du temple, qui est à l'intérieur du temple à cette époque-là, la table, table des pains de proposition, l'arche de l'Alliance, l'autel des holocaustes, était fabriqué en quoi ? En acacia. C'était justement fabriqué en acacia. Et quelque part, l'image enseignée par ce texte, c'est que grâce à la source issue du temple, cette vallée contribue par ses produits au culte du Seigneur. Cette vallée est rendue capable de produire des choses pour le Seigneur. La vallée de Sittim, c'est également la vallée, le dernier site où étaient Josué et le peuple d'Israël avant de démarrer la conquête du pays de Canaan. Donc c'est le site le plus proche du territoire promis, mais qui était en dehors de ce territoire promis. Et quelque part, là encore, cet endroit situé autrefois en dehors du pays promis bénéficie désormais de la bénédiction divine. Et là aussi, le message est fort. La bénédiction divine va aller au-delà du pays promis. Ces quelques mots décrivent donc l'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit qui nous purifie. Et les eaux répandues sur une terre desséchée, cette image d'eau qui se répand sur une terre desséchée, évoque l'Esprit, le Saint-Esprit, qui se répand parmi le peuple de Dieu, qui jusque-là était stérile, qui jusque-là ne portait aucun fruit pour Dieu. Et nous vivons, après la mort, le sacrifice de Christ, sa résurrection, dans ce temps de grâce où le Saint-Esprit se répand parmi nous pour nous purifier, pour que nous puissions être rendus capables d'offrir notre louange, comme on l'a vu à travers toutes les nations ce matin, d'offrir nos corps en sacrifice aussi pour l'Éternel. Tout le pays autour de la capitale devient ainsi un territoire purifié, saint pour Dieu. Et en prolongeant cette pensée, on aboutit à la conception du Nouveau Testament, selon laquelle il n'y a plus un lieu privilégié pour rendre un culte à l'Éternel. À l'époque de Joël, il n'y avait qu'un lieu pour rendre le culte à l'Éternel. C'était le temple à Jérusalem. C'était là que devait se rendre le peuple d'Israël pour invoquer l'Éternel, pour l'adorer, pour le prier. Aujourd'hui, il n'y a plus un lieu spécifique pour adorer le Seigneur. Dieu peut être adoré en tout lieu, même à Grenoble, même dans cette salle. Le lieu où nous sommes réunis ce matin est purifié et saint, pas parce que c'est le bâtiment de l'Église, non, mais parce que son Église, son Assemblée, les gens que nous sommes les uns et les autres, sont ensemble, réunis. Et comme le dit Matthieu 18, verset 20, là où deux ou trois sont assemblés, nous sommes bien plus nombreux ce matin, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et si Dieu est présent au milieu de nous, ça veut dire que le lieu est saint, parce que Dieu se présente dans un endroit saint. Nous sommes réunis ensemble dans la sainteté de Dieu. Au verset 19, Dieu juge justement, l'Égypte sera dévastée, Édom deviendra un désert, à cause de leur violence contre les Judéens dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. À la place des bénédictions qui attendent le peuple de Dieu, Joël décrit ensuite le terrible jugement que Scott, en particulier, a développé la semaine dernière. Et je vous invite à écouter cette prédication. Ce jugement attend tous ceux et toutes celles qui rejettent de Dieu. Et ici, dans cet exemple, Joël prend deux nations types ennemies du peuple de Dieu. L'Égypte et Édom. Édom, c'est le peuple du frère de Jacob, d'Ésaü. Et ces deux nations symbolisent quelque part l'ensemble du monde hostile à Dieu, ennemi de son peuple. Pourquoi ces deux pays précisément ont-ils été choisis par le prophète Joël? Selon certains, l'Égypte représente les grandes puissances de ce monde qui oppriment le peuple de Dieu. Et Édom représente la haine permanente contre le peuple de Dieu. Selon d'autres, l'Égypte évoque l'esclavage, l'oppression, alors qu'Édom évoque le peuple rejeté par Dieu. La raison de leur jugement à venir, en tout cas, est très claire. À cause de leur violence contre les Judéens dont ils ont versé le sang innocent. Le meurtre de l'innocent, dont il est question ici, est l'expression la plus forte, la plus grave du péché dans l'Ancien Testament, le meurtre de l'innocent. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, le meurtre de Jésus-Christ, un innocent qui a été jugé, est dans la pensée biblique ce qu'il y a de plus grave. Ce n'est pas un jugement sans raison que Dieu prononce ici. Non, à travers ce jugement, Dieu rend justice. À travers ce jugement, la justice de Dieu est satisfaite, parce que le meurtrier de l'innocent est condamné. Le texte met en contraste les destins du peuple de Dieu et de ceux qui s'opposent à lui. Le peuple de Dieu est béni abondamment, alors que les ennemis de Dieu sont jugés, justement. On retrouve ce contraste aussi dans le fait que Judas, qui était une terre stérile, est devenue une terre d'abondance, alors que ces pays qui étaient abondants, qui étaient fertiles, deviennent des déserts. Et comme la prospérité de Judas au verset 18 figure celle du peuple de Dieu et chacun d'entre nous qui avons décidé de faire de Dieu, de Jésus-Christ, le premier dans nos cœurs, de la même manière, la désolation de l'Égypte, la désolation d'Édom symbolise le sort final de tout ce qui reste rebelle à Dieu. Qui l'a écrit à ce propos? La désolation éternelle des royaumes de ce monde, cité ici, effacera tout le mal laissé impuni jusque-là, qu'ils ont fait au peuple de Dieu. Dieu réglera ses comptes un jour. Et peut-être que ces jugements de Dieu vous semblent sévères, voire trop sévères, et que vous dites que la promesse de dévastation totale pour celui ou celle qui rejette Dieu est disproportionnée. Est-ce que c'est ce que vous avez sur le cœur? Si vous vous posez ce genre de questions, alors écoutez la réponse de David Platt dans son livre « Suis-moi ». En lisant ces histoires de l'Ancien Testament, beaucoup sont troublés. Après tout, Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour? Ses punitions pour le péché ne sont-elles pas un peu sévères? De telles questions bien connaîtes révèlent un problème fondamental, celui de notre appréciation humaine, entre guillemets, du péché. Nous considérons ces punitions disproportionnées. Nous ne réclamerions la mort d'un individu qui nous aurait offensé de la sorte. Mais le salaire du péché n'est pas déterminé par notre propre mesure de la faute. Il l'est par la qualité de l'offensé. Si vous brisez une brindille, vous n'êtes pas très coupable. Si vous faites du tort à un homme ou une femme, vous êtes vraiment coupable. Mais si vous péchez contre un Dieu infiniment saint et éternel, vous êtes infiniment coupable et vous méritez une punition éternelle. Mais Judas sera toujours habité et Jérusalem le sera de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé et l'Éternel habitera dans Sion. Si Édom est réduit en un désert et donc inhabité, Juda et Jérusalem, eux, sont habités pour toujours. La terre qui a été rendue fertile, au verset 18, sera habitée à tout jamais, pour toujours, pour l'éternité. La fertilité de la terre n'est pas le but en soi. La terre est devenue fertile pour nourrir les hommes. Elle n'a de raison d'être qu'en vue de l'existence du peuple de Dieu. Le plus merveilleux n'est pas que cette terre soit habitée pour toujours par le peuple de Dieu, mais que Dieu lui-même y habite au milieu de son peuple. Il est écrit que l'Éternel habitera dans Sion, Sion étant un autre nom pour désigner Jérusalem. En Joël 3, verset 5, les rescapés du peuple habitaient Sion. En Joël 4, verset 17, c'est l'Éternel qui y habitait. Ici, dans ce texte, les deux affirmations sont réunies. À la fois le peuple de Dieu y habite, et à la fois l'Éternel lui-même est au milieu de son peuple, réunis ensemble. L'abondance de biens est merveilleuse. Le jaillissement de la source de purification est extraordinaire. Mais la présence même de Dieu au milieu de son peuple est sans commune mesure par rapport à tout cela. C'est la bénédiction la plus extraordinaire pour celui ou celle qui a fait de Dieu son Seigneur et son Sauveur. Être dans la présence de Dieu, est-ce que c'est bien cela, en tant que chrétien, notre espérance ultime? Qu'attendons-nous vraiment du ciel? L'abondance? La disparition de la souffrance? Ou être dans la présence même de Dieu? Qu'est-ce que nous attendons? John Piper nous pose une question à laquelle il vaut la peine de réfléchir en tant que chrétien. La question essentielle pour notre génération et pour chaque génération est la suivante. Écoutez bien. Si on vous offrait le ciel sans aucune souffrance physique, mais avec tous les amis que vous avez eus sur la terre, avec tout ce que vous aimez manger, tous les loisirs qui vous passionnent, toutes les beautés de la nature et que vous n'aurez jamais eu l'occasion d'admirer, tous les plaisirs physiques auxquels vous avez goûté, sans aucun conflit entre personnes ni aucun désastre naturel, seriez-vous satisfait de ce ciel si Jésus n'y était pas? Qu'attendons-nous du ciel en tant que chrétiens? De la réponse à cette question dépend la nature de notre foi. Qu'attendons-nous du ciel? Vivre dans la présence même de Dieu, éternel, trois fois saint, c'est cela qui doit être notre espérance ultime. Pas l'abondance, pas l'absence de souffrance. Notre espérance ultime, c'est une personne. Vivre dans la présence du Dieu trois fois saint. Peut-être avez-vous remarqué, selon vos versions de Bible que vous avez devant vous, une différence de traduction sur le début du verset 21. Cela vient du fait que dans certaines versions, le verbe utilisé dans l'original est traduit par « venger ». Vous aurez une traduction de ce type-là. « Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé ». Et dans d'autres, il sera traduit par « innocenter ». Et vous aurez quelque chose du style « j'innocenterai leur sang que je n'ai pas encore innocenté ». Cela fait partie des quelques passages dans la Bible dont la traduction est relativement incertaine. Mais ça ne doit pas nous inquiéter. La Bible est fiable et l'une ou l'autre de ces traductions, vengeance ou innocence, ne remet rien en cause sur le message global de la parole de Dieu. Et peut-être que la notion de vengeance peut nous déranger, comme la notion de jugement qu'on a vu avant. Dieu se venger? Vraiment? C'est pas un Dieu d'amour qui se venge. Dieu ne devrait-il pas pardonner ? Après tout, c'est ce qu'il nous demande de pardonner. Le verset clé qui nous permet de bien comprendre ce qu'est la vengeance de Dieu se trouve dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 32, verset 35, et est cité à deux reprises dans le Nouveau Testament, Romains 12, 19 et Hébreux 10, verset 30. C'est Dieu qui dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. » Lorsque Dieu se venge, c'est pour punir ceux qui le méritent avec justice. Contrairement à nous, Dieu ne se venge pas avec des motivations impures, mais pour punir ceux qui le méritent. Nous pouvons être tentés de nous attribuer le rôle de Dieu dans nos vies et de vouloir nous venger, vouloir punir par nous-mêmes ceux et celles qui nous ont fait du tort, qui le méritent peut-être, mais du fait de notre nature pécheresse, nous ne pouvons pas nous venger avec des motivations pures. Ça nous est impossible. Nous devons donc laisser à Dieu cette vengeance, parce que lui se vengera avec des motivations pures, lui se vengera en pleine justice. Comme le dit le pasteur Olivier Favre, savoir que la vengeance appartient à Dieu permet de vivre sereinement, de supporter certaines injustices en se rappelant que la justice parfaite n'existe pas sur cette terre, dans un monde atteint par le péché. Remettre la vengeance aux mains de Dieu permet de vivre sereinement dans ce monde rempli d'injustice. En conclusion, cette question, selon vous, que se passe-t-il après la mort ? La réponse de la Bible est très claire. Y a-t-il une vie après la mort ? Oui. Mais la question suivante est beaucoup plus importante. Quelle vie ? Quelle vie ? Si vous avez mis Dieu de côté dans votre vie, ne croyez surtout pas que cela sera sans conséquences. Au contraire, un jour viendra où Dieu mettra un stop à notre histoire. Il viendra pour juger les nations. Dieu exercera son jugement. Il vous reste encore du temps peut-être pour changer d'avis sur Dieu. Mais combien de temps, ça personne ne peut vous le dire. Si vous avez pris la décision d'aimer Dieu, de rechercher sa volonté de tout votre cœur, Dieu vous promet un avenir extraordinaire, fait d'abondance de biens, de purification totale et surtout et avant tout de sa présence glorieuse au milieu de nous. Aujourd'hui, nous bénéficions déjà d'un grand privilège puisque le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous et nous sommes comme dans une salle d'attente. Un jour viendra où nous verrons Dieu face à face, où nous aurons cette relation directe avec lui. Et je finis avec ce texte, Apocalypse 21, verset 1 à 4, où Jean parle et nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il lui sera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Il y a une vie après la mort. Notre espérance n'est pas pour ce monde, il est pour celui à venir, avant toute chose. Et nous sommes comme dans une salle d'attente. Et nous sommes, je crois, privilégiés d'être dans la salle d'attente de l'ECE. Et on l'a vu à travers toutes les nations qui sont réunies, à travers notre diversité. C'est un privilège de vivre dans ce temps d'attente, ensemble, réunis. Mais qu'est-ce que ce sera quand toutes les nations, toutes les tribus sont réunies comme un seul peuple devant l'éternel Dieu. Amen.